Bonsoir à tous. Avant de commencer la séance, je vous souhaite à tous une très bonne année 2017, qui sera riche en projets, je l'espère. Donc, on va ouvrir la séance. Et avant de commencer les points à l'ordre du jour, j'ai besoin d'un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire?
C'est Thierry.
Merci Thierry. Je vous propose de passer à l'approbation du compte-rendu de la séance du 6 décembre 2016. Donc, j'ai bien reçu vos remarques qui sont toujours le même point, hein, qui sont soulevées, à savoir vouloir un compte-rendu plus exhaustif et détaillé. Je vous demanderai sur ma position, ce n'est pas un verbatim. Il y a l'enregistrement qui est ici présent, qu'on peut consulter sur Internet pour avoir le détail de l'ensemble des échanges. Et c'est vrai que le compte-rendu, pour moi, est un compte-rendu qui doit vraiment. Qui ne doivent pas forcément prendre de façon exhaustive l'ensemble des échanges de façon, voilà, d'amener de façon précise les échanges, mais ça ne s'arrête pas.
Je considère quand même que les Riomois ont le droit de connaître les réponses à nos questions, vos réponses à nos questions.
Tout à fait, et je partage
avec vous. Et donc, je souhaiterais que ces réponses soient consignées. C'est tout, je ne demande pas autre chose. Parce que quand on lit sur un compte rendu, Madame le maire répond aux questions, mais qu'on ne connaît pas la nature de la question, ça veut dire que la question reste toujours posée. Voilà, c'est tout.
Donc, je partage votre souhait que les Riomois soient informés. Et ils peuvent consulter l'enregistrement sur Internet. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre?
T'as vu, hein, c'est
plus. Deux contre.
Mais je ne prendrai pas en vote, je ne suis pas là.
D'accord. Abstention. Approuvé, je vous remercie.
Donc il y avait trois contre.
Il y a deux contre et deux abstentions, parce qu'ils n'étaient pas là. Ah oui, ne prennent pas part au vote, c'est pas même. Comme il y a deux contre, là.
Oui, pardon, je n'ai pas dit, il y a une procuration, qui est celle de M. Lejeune à Mme Lacan.
Il y a combien de votes? Combien il y a eu de votes?
Votes pour? Oui. Ben, tous ceux qui ne sont pas, donc j'ai dit contre, abstention, donc les autres. Vous les contre?
Oui. D'accord. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, qui ne prend pas part au vote? Et pour? Nous sommes en train de noter le compte rendu du précédent conseil municipal. Excusez-moi, vous avez. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.
Je n'étais pas.
Et 15 avec moi.
Oui, mais ceux qui n'étaient pas présents ne peuvent pas prendre part en vote. Ah.
Donc les deux voilà.
Mais avec toi, tu n'es pas présent.
Moi, je t'ai absent.
Non, mais j'étais là.
Ah non, présent. À la séance.
Non, pas le droit de prendre part au vote.
Si, je ne t'en prie pas, mais.
Ah non. Mais non, parce qu'il n'était pas la loi.
Ah, moi, j'étais absente, non. Je n'étais pas absente.
Vous voyez le code général, ils n'ont pas le droit de prendre part au vote.
D'accord. C'est bon. Je ne pense pas que ça remette en cause l'approbation du compte rendu. Mais ce serait quand même. Donc, pour votre information, dans la décision qui a été prise, donc nous avons pris la décision pour la réalisation de la façade nord et du clocher de l'église. Donc, le marché a été lancé. Alors, est-ce que tu veux dire?
Donc, suite à la réunion de la commission de travaux concernant le marché de la reprise des façades de l'église du côté nord et pas du clocher, la commission vous propose de retenir le lot 1, le lot gros œuvre de l'entreprise Coréa pour un montant de 95 849,67 € hors taxes, comprenant la variante de piquage du ciment et réfection de la partie basse du clocher. Et pour le lot 2, le lot des vitraux, il vous propose de l'attribuer à la société Deloi Rijaga pour un montant de 9 489,80 € hors taxe. Juste pour un petit commentaire, trois des entreprises qui ont répondu se tenaient vraiment dans un mouchoir de poche, l'entreprise Vicentini, l'entreprise Aragon et l'entreprise Coréa. La mieux disante était donc l'entreprise Coréa en ce qui concerne le lot Grosse. Pour le lot Vitro, la différence de proposition des entreprises était telle que l'entreprise Deloitte Prisalva l'a emporté largement.
Je trouve intéressant ce que vient de dire M. Vécussan, et je pense que même au niveau des vitraux, c'est bien moins cher ce qu'on a choisi. En revanche, ce serait intéressant aussi que ces entreprises, les montants, soient, voilà, qu'il y ait un petit tableau pour dire, on a, comme on fait dans notre collectivité ou au syndicat des eaux ou autre, pour dire, voilà, il y avait ça, ça et ça, on a choisi ça parce que. Juste faire un petit tableau.
On pourra faire passer le tableau.
Oui, pour l'avenir, vous avez raison. À l'avenir, on vous transmettra ça. Je vous propose de passer au premier point à l'ordre du jour, à savoir la fusion de la communauté de communes du canton de Cazères, de la communauté de communes du Loup de la Touche et du Savès, qui maintenant forme la nouvelle intercommunalité Cœur de Garonne depuis le 1er janvier, et donc qui exige de notre part qu'on élise à nouveau les conseillers communautaires. Donc, ne peuvent se présenter que ceux qui étaient déjà, qui siégeaient déjà à l'intercommunalité. Donc, pour la liste de M. Estournès, Ensemble pour une meilleure avenir, donc vous êtes candidat. Et pour la liste Unie pour Riel, donc son candidat, dans cet ordre, moi-même, M. Lécussan, Mme Mallet, M. Bertin, M. Chantran, Mme Séchao, M. Ballon et Mme Ramon. Voilà. Donc on va procéder au vote de ces bulletins secrets. Donc on va vous passer des bulletins. Je vous propose peut-être de mettre liste 1, liste
2. Excusez-moi, je n'ai pas entendu tous les noms.
Ah, alors, c'est peut-être pour faire plus simple, pour éviter que tout le monde écrit, on fait liste 1 et liste 2, si vous voulez bien.
Oui, mais le nombre de personnes sur les listes, c'est quoi?
C'est ceux qui ont siégé déjà, qui sont déjà conseillés de façon à côté de commune du Savès. Et il y a 7 sièges à pourvoir.
7 sur 1 et 1 sur l'autre, c'est ça?
Alors, ce que je vous propose, c'est lire par liste, mais parce que ça se fait par liste.
Oui, mais est-ce que vous pouvez répéter les noms de votre liste? Parce que M. Estournès, c'est pour...
Bien sûr, donc je vous propose pour la liste 1, Unie pour Riel, moi-même, M. Lécussan, Mme Mallet, M. Bertin, M. Chantran, Mme Séchao, M. Ballon et Mme Arnaud.
Et pour la... Ça fait combien? Ça fait 7, c'est ça?
Non, aujourd'hui, c'est la liste, ce sont les candidats. Ça veut pas dire que c'est un élu.
Le nombre de Madame
Morin,
le nombre de délégués à la communauté de communes de Savès était de 9.
Oui.
Donc nous avons bien sûr une liste de 9 noms. Oui.
Mais maintenant il est de 7.
Et maintenant, ça va à 7.
Elle ne sera plus que de 7.
Ça mettait 8.
Parce qu'on peut présenter la liste telle qu'elle était lors de l'élection qui a été faite en scrutin direct. Donc on présente en fait la totalité de la liste des personnes qui ont siégé. Après, ça va se faire proportionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas élus en fonction du nombre de voix.
Mmh. Non, mais on vote la liste entière.
Oui,
vous votez la liste entière. Exactement, vous votez la liste entière.
Donc, forcément, dans votre liste, il y en a un de trop. Puisque, au pire, vous pouvez en avoir 7.
Oui, mais on vous présente la liste telle qu'elle a été présentée.
Ensuite, il y en a qui s'enlèvent.
Après, il y en a qui ne seront pas élus.
Oui,
voilà. Le dernier, de toute façon, ne sera pas élu.
Voilà. Donc, elle est intérêt de... Ah, les deux derniers. Non, vous étiez
oui. Ça fait combien de fois par...
Vous étiez
voilà, exactement. C'est bon ouais. Donc, la liste 1, Unie pour Riel, et la liste 2, Ensemble pour un meilleur avenir, avec M. Estournès. Si vous voulez écrire juste liste 1 ou liste 2, vous pouvez. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de vous appeler un par un, il n'y a pas d'émargement, vu que l'appel vaut l'émargement en conseil municipal. Madame Monteau. Madame
Henri. Madame Maury.
Monsieur Solana.
Solana. encore assez.
Madame Aragon. Madame Sachao. Madame Pémy. Madame Montoya. Il manque un bulletin.
Recomptez les bulletins. Il manque un bulletin.
Donc, ce que ça donne, donc, au quotient à la proportionnelle, ça donne un siège, 5 sièges pour la liste 1 et un siège pour la liste 2, M. Estournès, et à la plus forte moyenne, 2,83. pour la liste 1 et 2 pour la liste 2. Et donc le 1. Donc le 8, c'est 2 sièges, donc il a attribué un siège, donc 6 sièges, sièges à la liste 1 et un siège à la liste 2. Voilà.
Je suis d'accord avec ça. Simplement, je voulais dire que la dernière fois qu'on a fait une élection au Puy-Forest, il y a eu une erreur. Et donc, M. Estournest était élu grand électeur. Et c'est M. Martin qui a été enregistré dans la délibération. Et c'est le préfet qui a saisi le tribunal administratif et qui a rectifié la délibération. Et donc, c'est M. Estournest qui a été élu. Mais ça n'a jamais été rectifié. Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est pas important? Est-ce qu'il fallait pas en parler?
Alors, ça a été rectifié, puisque M. Estournest a dû voter certainement pour les sénatoriales. Oui. Sachant que c'était une erreur de notre ancien DGS, puisque c'est pas intentionnel, puisque c'est quand même des choses assez particulières à calculer avec des formules. C'est pour ça que je regardais le tableau pour être assez précise. Donc ça a été rectifié puisque M. Estournest a pu voter, donc son droit a été reconnu.
Oui, c'est pas ça que je veux dire, Madame le maire, c'est qu'il a été affiché au panneau que les grands électeurs c'était tac 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 tac, alors que M. Estournest était grand électeur et ça n'a pas été affiché. Mais ça n'a jamais été rectifié non plus au panneau. Donc M. Estournest est grand électeur à la place de M. Martin. C'est ça, le résultat de la saisie du tribunal. Le préfet a saisi le tribunal, c'était comme ça, c'était pour ça.
Oui, donc tout à fait. Nous sommes d'accord sur l'issue.
Donc il vaut mieux ne pas se tromper.
C'est pour ça que je regardais le tableau avec attention et qu'on avait regardé le calcul avant. Donc les personnes qui représenteront la commune de Mieux dans la future intercommunalité, non, dans l'intercommunalité actuelle, sont Cœur de Garonne. Donc, Monsieur Lécusson, Madame Mallet, Monsieur Bertin, Monsieur Chantran, Madame Séchao, Monsieur Estournest et moi-même. Voilà. Point suivant. Donc.
C'est quoi, mais c'est quand l'élection des vice-présidents et des...
Normalement, je crois que c'est le 26.
26. Donc, toutes les communes vont voter d'ici là, ça veut dire ça. Et donc, après, il y aura.
C'était l'impératif.
Et il y aura combien de vice-présidents dans la communauté de communes
13 et le président.
13 plus le président. Dans la nouvelle communauté de communes. Avant, c'était 12 plus 1. Et chez nous, c'était 12 plus 1. Et là, il y aura 13 plus le président, c'est ça?
Oui.
13 ans plus?
Oui. Si je ne me trompe pas, oui.
Sur les 3 communautés de communes, il y aura 13.
Pour moi, c'était 12 plus 1.
Dans la dernière réunion qu'on a eue du bureau, c'est semblant que ce soit 13. En fait, ils se sont posé la question de séparer culture et tourisme. Au départ, ils voulaient mettre culture et tourisme ensemble, et il semblerait qu'ils divisent culture et tourisme. Sachant que, bien sûr, ce que je vous dis est au conditionnel, puisque c'est une information de bureau et que j'ai pas plus d'informations. C'est pour ça que je vous dis 13, mais après, ça dépendra du choix de ce qu'on présentera le 26.
Ça sera le jour du vote que le nombre de
spectateurs sera voté. Après, forcément, il y a des échanges en amont, et voilà. Mais pour le moment, c'est en tout cas, on partira sur 13.
Et toutes les compétences de la communauté de Savès sont reprises maintenant.
C'est une obligation. La loi impose la première année de fusion de reprendre toutes les compétences. Oui. C'est après l'année passée qu'on décidera si on garde les compétences non obligatoires ou pas.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que vous voulez. C'est pas une obligation. Il y en a qui sont obligatoires.
Non, la première année, ils ont l'obligation de reprendre toutes les compétences qui étaient exercées par chaque intercommunalité. Donc, en gros, même les compétences non obligatoires sont reprises pour 2017. Et c'est en 2018 qu'il a fait le choix de garder ou pas les compétences non obligatoires qu'ils avaient gardées pour passer la loi. Je vous propose de passer au point suivant, concernant donc justement les compétences, transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Cœur de Garonne. Donc nous avons l'obligation de... Si nous ne voulons pas transférer cette compétence, il faut délibérer aujourd'hui, sinon elle sera transférée de fait. Sachant que ce n'est pas évident qu'on aboutisse à... un suivi de vote si jamais on était contre ce transfert, puisqu'il faut que un certain nombre des communes de la structure de l'intercommunalité votent dans le même sens que nous. Voilà. Donc il faut 25% au moins des communes représentant au moins 20% de la population qui s'y opposent. Si jamais on ne veut pas transformer cette compétence.
Sinon, c'est reparti pour 3 ans, c'est ça?
Ah non, sinon c'est définitivement transmis.
Oui, non, mais après, au bout de 3 ans, il y a de nouveau une...
Ah,
on regarde à nouveau.
Oui, tout à fait. C'est possible qu'on doit se reposer la question après. Mais aujourd'hui, ça ne reviendra parce que de toute façon, ils voudront à terme... Alors, je ne sais pas si c'est 3 ans, mais à terme, ils voudront en gros qu'il y ait un PLUI. Donc, mais ils vont reposer la question. Et donc là, dans 3 ans, aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes législatives que des gens votons pour ce qui est aujourd'hui, on verra plus tard. Sachant que, pour votre information, toutes les intercommunalités, parce qu'on a travaillé sur des dossiers, donc que ce soit celle de Cazes, celle de Lougétouche ou celle du Savès, l'ensemble y a été, pour la commission urbanisme, tout le monde était contre ce transfert-là. Donc normalement, tout le monde va voter, en même temps qu'ils élisent leur conseiller communautaire, vont voter contre ce transfert. Voilà.
Et pour le PMU de la commune, bon, c'est pas l'ordre du jour, mais ça c'est quand même, on a mis où, là?
Donc, on attendait que Mme Audouin revienne de congé maladie, et donc nous avons convenu que nous allions faire. Alors, on a rencontré les différents services de l'État pour voir avec eux si on pouvait éviter une révision du PLU, si certaines choses étaient en révision simple ou allégée. Et donc, nous avons convenu que nous ferions une révision accompagnée par eux et leur conseil, bien sûr, du PLU.
Oui, c'est un peu allégé, c'est ça?
Non, en fait, on se posait certaines questions parce qu'il y avait quelques urgences. Notamment pour la ferme du paradis, de réviser notamment le PLU pour pouvoir justement déplacer la ferme du paradis.
Est-ce que ça rendra les terrains de M. Lesserin constructibles?
Ah non, pas du tout. Non, l'urgence c'était juste que la parcelle sur laquelle on vous a proposé de transférer la ferme du paradis est en zone forestière protégée, réservée, en GGG, pas forcément bon terme, espace boisé classé, merci. Et que du coup, pour pouvoir avoir une activité sur cette parcelle, il faut changer, la sortir de ce classement.
Mais ils sont déjà partis, ils sont vers au puits là-haut, vers.
Ah non, ils sont pas partis partout.
Ah, j'ai un autre numéro.
Ils sont pas partout.
Non, ils ont des habits à visiter.
Ah d'accord.
Voilà. Donc, pour en revenir à l'heure du jour. Je vous propose donc de voter contre le transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Cœur de Garonne. Nous allons, s'il n'y a pas de remarques, nous allons procéder au vote. Abstention. Pour.
Je propose de voter contre, c'est pour ça.
Je recommence parce que je vois qu'elle est distrait. Donc, je vous propose de voter contre. Le transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Cœur de Garonne. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc.
Qui est. Ouais, non, là je pense que.
Ok, bon, je formule mal.
C'est tendancieux.
Donc.
Qui est contre le transfert
De la compétence urbanisme à la communauté de communes. Voilà. Non, il n'y a pas d'unanimité. Parce que M. Solana est.
Je suis pour.
Et donc, un pour.
Pour le transfert.
Oui, transfert.
Pour le transfert. Je veux dire pourquoi.
Allez-y, vous allez.
En fait, on donne la salle Denis Ponero à la communauté de communes, sans qu'il y ait de projet. En fait, le presbytère, on le cède également à la société HLM.
Non, c'est un bail amphithéotique.
Voilà. Le foyer. Également, je ne vois pas pourquoi, pour le PLU, on accepte au niveau PLU de la commune, hein, le transfert à ces sociétés, entre guillemets, et pourquoi on ne le ferait pas pour le PLU?
D'accord. Je partage...
Voilà, c'est tout. Hein,
je l'entends, je ne partage pas du tout votre avis et je vous l'explique, mais ouais. Pour l'ancien foyer logement, donc pour la session au chalet, c'était un projet. On a défini le projet ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont engagés à faire des logements seniors. On ne pouvait plus le garder en foyer logement puisque le département ne le souhaitait pas.
Je suis d'accord, oui. Non, mais je suis d'accord.
Donc c'était la seule issue pour sortir, sachant que sinon ils ont réclamé une indemnité de quasiment 60 000 euros du fait de la rupture du bail amphithéotique. Donc ça nous a permis d'éviter de payer cette indemnité. c'était prévu de le faire à la place de la médiathèque. Lors de l'élection, nous avons présenté un projet Aurier et moi, disant qu'on ne voulait pas en faire la place de la médiathèque dans Creuse, c'est-à-dire encore fermer un espace qui pourrait amener du monde. Donc on a proposé à Cité Jardin de le faire au presbytère, ceux qui l'ont accepté, sachant que c'était une volonté, mais je pense fort, de tout le monde ici pour la table, c'est-à-dire de permettre à la JH de garder leur activité ici et de se servir dans le village. Donc c'est, voilà, on a manifesté cette intention. Ce n'est pas vendu, c'est en bail emphytéotique. Et après, pour la salle de Niponero, il n'y a pas de projet écrit, mais il y a un projet précis, sachant qu'on l'a cédé à deux conditions. C'est-à-dire, déjà, pour le moment, ce n'est pas acté, hein, parce qu'il faut que la nouvelle interco l'acte. Mais les deux conditions sont qu'il soit réalisé un projet culturel, donc une salle de spectacle, de sculpture, à définir plus précisément, mais qui ne profitera beaucoup au territoire du Loire. Et que si cela n'est pas fait d'ici 2020, cela revienne à la commune.
2020.
Comme ça, la prochaine pourquoi
2020? Parce qu'en 2020, ça arrête les subventions dont seul peut bénéficier l'intercommunalité. À savoir que ce projet-là serait financé au niveau culturel à plus de 80%. Ce que nous, on ne pourrait pas avoir si on partait, puisqu'on est une commune et que c'est des fonds européens qui ne visent que les intercommunalités. Donc cette subvention s'arrête en 2020 et c'est pour ça qu'on a mis cette clause pour que si en 2020 ils ne sont pas bénéficiés de ces subventions, ça revienne à la commune pour pas qu'ils bloquent et ferment et gardent un bâtiment fermé. Voilà.
Moi je vais juste rectifier un petit peu ce que vous avez dit au départ. Le foyer de logement en résidence senior, c'est un projet de l'ancienne municipalité et pas de vous, qui avait été acté, l'accord cadre était passé. Voilà. Donc non, c'est pas vrai, laissez-moi parler quand même. Voilà. Donc dans le dernier journal municipal, il y a de quoi s'arracher les cheveux quand on dit ce que vous disiez, mais il faut être habitué à vos mensonges. Donc les gens ne les connaissent pas, mais ceux qui étaient là, aux manettes, savent ce qui s'est passé réellement. Et même dans la salle ici, il y en a qui savent ce qui s'est passé réellement. Voilà. Ensuite, par rapport à au presbytère, il n'était pas du tout écrit dans votre programme. Il n'était pas du tout écrit dans votre programme que vous alliez créer des logements sociaux dans le presbytère. Dans les jardins du presbytère, pardon. Dans le presbytère, oui, mais pas dans les jardins. D'ailleurs, dans un article de presse, vous aviez dit l'année dernière, en début d'année, que vous alliez créer deux logements au presbytère et pas deux. Donc ça, c'est aussi à
répéter.
Oui, dans un article de presse. Oui, oui, on ira le chercher. C'est vous qui... Oui, oui, de madame le maire.
Vous.
Je vous le porte au prochain conseil. Voilà.
Donc, distribue. En fait, vous avez fait... Enfin, ok, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, mais je veux bien lire l'article parce que je suis quand même très étonnée.
Oui.
Parce qu'il a été toujours évoqué avec Cité Jardin de faire peut-être deux logements pour le prêtre. Mmh. Finalement, on est arrivé à un logement pour la paroisse, pour le prêtre. Mais il n'a jamais été question de faire seulement deux logements. Vu que le projet initial de la médiathèque là, c'était une dizaine de logements, ça va de soi que ce n'était pas deux logements qu'on transférait là-bas.
Bah, on peut faire deux. Là, le Cité Jardin pouvait très, très bien faire deux logements sur le presbytère et 10 logements ailleurs. Il n'y a pas d'incompatibilité. Bon, la dernière chose.
Je veux bien voir l'article parce que je suis quand même très étonnée.
Oui,
je reprends
de l'article de presse, hein, c'est oui. Pas moi qui l'ai fait, c'est vous. Hein. Voilà. Donc, ensuite, par rapport au presbytère, je vous ai demandé le projet de bail emphytéotique. Jamais la commune, jamais le conseil municipal n'a approuvé le projet de bail emphytéotique puisqu'elle ne l'a pas vu.
Mais il n'a pas été signé encore.
Mais attendez, avant de le signer, il faut le voter.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de travailler, donc je ne peux pas vous présenter quelque chose qui n'est pas encore finalisé.
Donc c'est un projet.
Oui,
c'est un
sûr.
Projet. Et après, il faudra le voter, avant de l'adopter.
Bien sûr.
Voilà, donc quand je parle à vous. Et là, les études de sol, etc., sont déjà en cours, c'est ça?
Oui.
Oui, très bien.
Tout est en cours. Très bien, je vous propose de passer au point suivant. Création de 3 postes d'avancement de Val. Donc, modification des tableaux des effectifs. Donc, conformément à l'article 34 de la loi 84, les emplois de chaque collectivité des établissements sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou des établissements. Donc, je ne vais pas vous lire l'ensemble de façon exhaustive, juste vous dire qu'il y a eu un changement d'appellation de grade qu'on vous avait initialement proposé en décembre, un avancement d'adjoint technique territorial de première classe. Sauf que ce grade a été supprimé l'appellation. Et maintenant, il s'appelle adjoint technique territorial principal de deuxième classe. Voilà. Concernant l'agent maîtrise, qui passe agent maîtrise principal, il n'y a pas eu de changement. Voilà. Alors, ça ne change rien pour l'agent, mais c'est juste une appellation différente.
Mais c'est quand même un national de fin.
Oui, c'est exactement pareil, sauf que je tenais à vous dire qu'il y avait un changement d'appellation depuis le 1er janvier de cette année. Donc, on passe pour la création de deux postes, l'adjoint technique territorial principal de deuxième classe et un poste d'agent de maîtrise principale, et on supprime deux postes d'adjoint technique de deuxième classe et d'un poste d'agent de maîtrise.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui a changé ?
En fait, c'est juste l'appellation. C'est-à-dire que l'appellation proposait de monter d'un grade deux agents d'un grade d'adjoint technique territorial de première classe.
Oui.
Qui était en deuxième classe précédemment, sauf que ça a été supprimé par une loi qui s'applique au 1er janvier de cette année, et maintenant ça s'appelle adjoint technique territorial principal de deuxième classe. En fait, il n'existe plus de première classe.
Oui, mais principal et technique de deuxième classe, c'est pas du tout la même chose.
C'est le même poste, c'est pas la même.
En fait, c'est
adjoint technique de deuxième classe et adjoint technique principal de deuxième classe, c'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas, mais bon,
alors,
c'était pas du tout la même chose.
Moi, je ne suis pas spécialiste, honnêtement, de tout ce qui est gestion, mais au niveau des emplois dans les collectivités. Je peux peut-être laisser la parole au DGS qui pourra vous en parler de façon plus détaillée.
Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé l'avancement de grade au grade d'adjoint technique de première classe, d'agent qui était adjoint technique de deuxième classe. Le 14 décembre, la CAP nous a répondu favorablement sur cet avancement au grade de première classe, puisqu'à l'époque, il n'était pas encore créé ces nouveaux grades applicables au 1er janvier. Sauf que le grade d'adjoint technique de première classe est supprimé depuis 10 jours, et donc tous les agents qui étaient adjoints techniques de première classe, et c'est la même chose pour les adjoints administratifs, deviennent directement adjoints techniques de deuxième classe. Voilà. Et donc, il y a une fusion des grades. Mais ça ne change rien sur le fait qu'il y a un avancement de grade et sur le fait qu'on va redemander l'avis de la CAP. On crée le poste aujourd'hui et l'avis de la CAP sera le poste d'ailleurs. Et donc, l'avancement de grade se fera par rapport à cette création de poste et par rapport ensuite à l'avis de la CAP sur l'arrêté de nomination du gouvernement. C'est simplement un changement d'appellation qu'on n'avait pas, moi, quand j'ai préparé tout simplement la délibération. On connaissait les grades, mais comme on a eu la CAP avant. Voilà.
Oui, mais là, il n'y avait pas du tout écrit principal.
C'est ce que je veux dire. C'est que, en
fait,
on aurait pu anticiper, mais bon, c'est vrai que simplement, ça revient exactement à la même chose.
Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Abstention. Approuvé, je vous remercie.
Moi, je voudrais simplement rajouter, est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est toujours pareil, que le fait d'avancer un agent de deuxième à première classe, ça lui fait gagner un tout et pour tout 10 à 20 euros par mois, c'est ça ?
C'est ça.
Hein, ça ne change pas.
Environ 2 000 euros par mois.
Voilà, 10 à 20 euros par
mois.
Oui, oui, oui.
C'est 2000 euros pour les 3 postes.
Pour les 3 postes.
Oui. Donc cette refonte semblerait être faite pour pouvoir justement...
Peut-être que c'est le poste d'agent de maîtrise principale qui prend un peu plus.
Je vous propose de passer au point suivant. Donc concernant la vente de l'ancien foyer logement à la chalet et la servitude de passage qui est tenue dans la cour arrière du bâtiment. Donc en fait, nous avons signé un acte de vente en fin d'année, donc, qui donne possession de possession de la partie logement de l'ancien foyer logement au chalet pour en faire donc, des logements seniors. Et la collectivité a voulu garder la gestion du petit jardin qui est à l'arrière pour l'entretien, mais tout en permettant aux résidents de pouvoir en bénéficier. Voilà, et pouvoir faire un lien avec l'autre bâtiment en fonction du projet qu'on aura pour l'autre bâtiment. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, moi on veut parler, on a des questions. Je pense qu'on a tous les mêmes d'ailleurs. Voilà, on est en train de voter quelque chose qui a déjà été acté dans un contrat de vente.
Alors, c'est sous condition
c'est-à-dire a posteriori.
C'est sous condition que ce soit voté là.
C'est pas une clause suspensive. Si ça n'est pas une clause suspensive.
Alors, ce n'est pas l'objet de la vente non plus. L'objet de la vente, ce sont les logements. Mais là, on parle d'un droit d'usage.
Donc, je reprends. La délibération qu'on avait votée au mois de juin dernier ne comportait pas la certitude des droits d'usage. Alors, moi, j'aurais aimé être informée de ça, assister à une réunion, hein, parce qu'on avait, nous, dans l'ancienne municipalité, regardé ce problème et on avait décidé, bien entendu, de donner la servitude d'échelle, parce que quand il faut faire des travaux de l'autre côté, il faut bien que les chalets y accèdent. Mais on n'avait pas décidé de donner tout le jardin. On avait décidé d'en donner une partie.
On ne le donne pas.
Comment ?
Ah, on ne donne pas, c'est une servitude. C'est pas ça.
Non, mais c'est pareil. Attendez.
Ah non, ça
m'arrête. Attendez, madame le maire. Je vais vous dire quelque chose. Une servitude perpétuelle dans un acte notarié, ça veut dire que la mairie ne pourra plus jamais rien faire sur ce terrain pour la ménage. C'est tout. La servitude, c'est ça. Et je peux vous le dire, c'est le plus gros, la plus grosse jurisprudence dans les actes notariés sur les partages ou sur les. C'est la plus grosse jurisprudence. Une servitude à vie, ça veut dire que madame le maire, vous ne serez plus là dans 200 ans et moi encore moins, mais que le maire qui sera là à votre place sera obligé d'entretenir le jardin pour la société privée qui va retirer des loyers du bâtiment que vous lui avez donné. Donc là, on n'est plus sur on fait donnant, 58 000 d'un côté, 58 000 de l'autre, table rase. Là, vous êtes en train de donner un terrain, l'occupation d'un terrain à vie à non seulement la société des chalets aujourd'hui, mais dans 7 ans, ça peut être quelqu'un d'autre qui a repris le bâtiment, etc. Donc la mairie ne peut plus rien faire dessus. Et ça va jusqu'aux services municipaux.
Dans ces cas, on n'aurait pas pu construire. Ah, si votre idée c'était de construire et densifier, on ne peut pas puisqu'il y a un vis-à-vis avec les fenêtres.
Non.
Donc, on n'aurait pas pu déjà densifier si c'est votre question.
Non, c'est pas ça la question. La question n'est pas là. La question est que vous n'êtes plus propriétaire du terrain, vous êtes juste obligé de l'entretenir parce que vous le cédez à quelqu'un qui a le droit de faire. Alors je ne suis pas contre, hein, de céder des espaces verts à des résidents de la résidence. Simplement, j'aurais limité. La servitude à une emprise précise, ou alors j'aurais loué le terrain, c'était une possibilité, hein, parce que bon, on peut trouver des conventions qui peut-être à un moment donné permettent à la commune quand même de faire ce qu'elle veut. Nous derrière ce terrain, on a mis un emplacement réservé pour justement agrandir les logements, l'atelier des techniques, etc. Mais vous, à partir du moment où vous possédez une, et gratuitement en plus, et avec obligation de l'entretenir, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire sur votre terrain. Sauf que c'est possible.
Sachant que cette servitude est sous condition d'un bon usage, d'un respect par rapport aux résidents, de l'état des lieux, que c'est.
C'est normal ça. C'est normal. Mais parce que. C'est normal. Je ne sais pas, mais bon, je crois qu'il aurait fallu qu'on en discute avant, parce que d'une part, ça arrive après la signature de l'acte, donc ça ne correspond pas du tout à la délibération qu'on a votée en juin pour donner ces lieux au chalet. Et la deuxième chose, c'est que ça arrive après la signature de l'acte. Et on n'en a pas parlé, on n'en a jamais parlé. Voilà. Et il y avait possibilité de délimiter un terrain de 300 mètres carrés pour en faire un petit jardinier avec ça, tout en gardant, nous, le passage pour venir derrière là-bas et derrière la chaufferie et aller jusqu'au fond chez les techniques.
Mais c'est voilà. Gardé, ça.
Mais non, c'est pas gardé. Vous le gardez parce que c'est à vous, mais vous êtes obligé de l'entretenir et vous le donnez en servitude. Avec une servitude, vous n'êtes plus chez vous.
On est toujours chez nous, on peut aménager comme on le souhaite.
Non, madame. Non. Moi, je voudrais que les autres autour de la table s'expriment. Est-ce que certains ont des servitudes autour de chez eux? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que de donner l'usage à vie à une société privée qui vient faire du loyer, quand même, sur notre terrain? Je suis désolée. Est-ce que quelqu'un le sait dans la commune? Voilà. bien que nous ne soyons pas hostiles à ce qu'une partie du jardin soit réservée ou louée. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être qu'elle ne vous intéresse pas, mais moi je vais vous la raconter parce que je l'ai vécue. Quand j'étais petite, à 10 ans, mon père il achetait un terrain pour construire une maison. Il achetait un terrain, le lendemain il est mort. Il avait payé une partie du terrain. Et on était deux orphelins, il n'y avait même pas ma mère. On a été bien amis parce que le maire avait vendu ce lot dans le lotissement à condition qu'on construise une maison dans les 2 ans. Ma grand-mère n'avait pas les moyens non plus à construire. Donc qu'est-ce que mon oncle a fait? Il a écrit au maire. Il a dit qu'à de force majeure, on ne peut pas construire, on n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait, le maire? Il ne nous a pas retiré le terrain pour autant. Il a dit, je le garde pour les enfants jusqu'à leur majorité. Je les exonère du droit de construire. En revanche, je construis une classe mobile, une classe maternelle, sur le terrain, sans indemnité, sans rien. C'est donnant-donnant. Et à la majorité, ils feront ce qu'ils voudront. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la majorité, ils nous ont acheté le terrain. Voilà. Il y a eu des solutions. Et la clause qui était dans l'acte, c'était de dire, quand les enfants majeurs voudront récupérer le terrain, avec 3 mois de préavis, à condition que ce ne soit pas un cours d'année scolaire, on le leur recèdera. Il y a des solutions pour faire autre chose que de donner avis. Voilà. Parce que vous êtes là aujourd'hui, il y aura d'autres maires demain, et pour tous, c'est pareil. Comme moi j'ai été là et que je ne suis plus là et que un jour vous ne serez plus là, mais que tous les maires qui sont derrière seront obligés d'honorer les décisions que vous avez prises à la conseil municipal aujourd'hui, c'est-à-dire de ne plus pouvoir rien faire sur le terrain derrière le foyer logement jusque aux ateliers techniques. Point. Dans ces conditions, nous sommes contre.
Mais je ne partage pas du tout votre avis.
Si, si, mais moi, je voulais dire...
Non, je ne veux pas couper, alors, s'il vous plaît.
Oui, mais bon, moi,
je pense qu'il y a un respect qui doit y avoir sur vos secteurs. Donc, moi, je ne partage pas du tout votre avis. Pardon, madame Montaud, je...
Oui, j'ai une autre question. Normalement, il aurait fallu l'accord du conseil municipal sur cette servitude avant de signer l'acte.
Alors, le notaire nous a dit qu'on pouvait le faire en l'état, je crois, un professionnel. Et pour autant, si jamais on avait un refus, il n'y aurait pas de servitude.
Dans l'acte, quand même, il est noté que normalement, c'est noté dans l'acte, que pour ces servitudes, il faut l'accord, il fait une délibération, c'est noté. Et vous avez écrire, ou peut-être que le notaire l'a écrit, mais en fait, c'est noté que vous vous engagez à avoir l'accord du conseil municipal
Que je m'engage à le soumettre au conseil municipal. Je ne préjuge pas du vote du conseil municipal. Si jamais vous avez réussi à convaincre la majorité, il n'y aura pas de servitude. Sachant que l'acte notarié, l'objet de l'acte notarié n'était pas la servitude, oui, était la vente des logements pour en faire des logements.
C'est acté, c'est dans un acte notarié.
Moi, je vous dis que le professionnel... Moi, je ne suis pas professionnelle au niveau notarial.
Oui, justement,
on se doit de suivre les conseils du notaire, et donc ce n'est pas une condition de principe puisque l'acte sera réalisé par la vente, mais si jamais la majorité du conseil municipal est contre, il n'y aura pas de servitude. Il y aura juste la servitude d'usage qui se doit partout, mais qui est évidente pour pouvoir réparer une fenêtre, faire des travaux.
Mais ça, le notaire a quand même noté dans l'acte qu'une délibération est nécessaire.
Tout à fait.
Il l'a noté.
Exact. C'est pour ça qu'on vous soumet aujourd'hui.
Ah oui, mais vous l'avez signé l'acte, donc comment te prouve contre...
Est-ce qu'il y a eu un
mot? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de servitude si on vote contre.
Mais c'est pas noté ça dans l'acte. Mais c'est pas une condition suspensive.
Mais non, alors, non, vous ne comprenez pas le mot condition suspensive. Non, parce que vous confondez. Le mot condition suspensive, ça veut dire que l'acte ne se réalise pas du tout si cette condition ne se réalise pas. Aujourd'hui, les chalets n'ont pas fait condition suspensive. Les chalets ont dit qu'on souhaitait d'accord sur le fait qu'il y ait une servitude si le conseil municipal était d'accord. Si jamais le conseil municipal n'est pas d'accord, il n'y aura pas cette servitude, mais l'acte se réalisera. C'est ça une condition suspensive. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une condition suspensive.
Il n'est pas noté dans l'acte que si le conseil municipal est contre.
Mais ça va de soi.
Mais ça va de soi, c'est pas noté dans l'acte.
On n'a pas besoin de dire que s'il y a un vote contre, la servitude ne s'applique pas.
Mais c'est un risque énorme que vous prenez, madame le maire. Vous prenez un risque énorme. Je ne sais pas. Vous signez un acte, vous dites qu'il y a une servitude dans le jardin derrière, personne n'est au courant ici, et puis vous arrivez, vous dites maintenant il faut signer.
Non, je pense qu'il
faut voter. Alors attendez,
non,
mais c'est pas ça. Alors
je ne vous souhaite pas de malheur, hein, mais ça en faut. Mais si vous vous étiez tué en voiture entre le notaire et la mairie, qu'est-ce qu'on fait, nous, derrière? Vous avez signé l'acte?
Ça ne change rien. Et mettons le pire pour moi. Je me casse vite avant le vote. Là, je faisais une crise cardiaque par rapport à nos échanges.
Malgré tout,
vous votez contre. Ça ne remet pas en question l'acte notarié qui a été signé. Ça met juste en question le fait qu'il n'y aura pas de servitude d'utilisation du jardin. C'est tout. C'est une question de.
Eh bien, alors, il faut peut-être reporter.
Madame, je pense qu'ils sont d'accord.
Madame le maire, une délibération n'est pas rétroactive. Oui ou non? Est-ce qu'une délibération peut être rétroactive?
Mais
je vous pose une question
simple. Elle n'est pas rétroactive, mais en quoi ça pose problème?
Mais vous avez
signé le 22 décembre. Il dit bien que dans la signature de l'acte, la jouissance du jardin sera soumise à la délibération. Donc on dit bien mais parce que ça veut dire que c'est des règles de droit.
Mais la délibération. Pas comment le monter, vous allez voir.
Madame, pour le coup, je suis vraiment sûre de moi. Au niveau
juridique,
mais je ne vous dis pas qu'elle est rétroactive. Je vous dis qu'on s'est engagé dans l'acte notarié à le soumettre au conseil municipal. Je n'ai pas préjugé de vos votes et je ne me suis. J'ai pas dit c'est fait. Au niveau du droit, j'en suis sûre. Pour le coup.
Je crois pas.
Quand j'ai des doutes, je vous dis.
Mais l'acte notarié que vous avez signé, si jamais ce ne sera pas le cas, mais s'il y avait eu un vote contre, là,
l'acte notarié est valable, sauf qu'ils n'auront pas de servitude d'utilisation du jardin. Ce n'est pas l'essence de l'acte.
Ah si, elle est créée, la servitude, excusez-moi.
Mais non.
Il y a un paragraphe complet sur création de servitude.
Bon, écoutez, je pense que je suis assez exprimée, vous êtes assez exprimée.
Alors moi, j'ai autre chose que j'ai posée comme question ce matin, M. Jailly ne m'a pas répondu. Est-ce que les premières pages d'un acte notarié ne sont pas paraffées par ceux qui signent l'acte?
Alors, vous pouvez répondre...
Normalement.
Non, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on signe les actes notariés par format électronique. Donc il y a une lecture du notaire de chaque page devant les deux parties. Et on signe à la fin avec une signature électronique. On ne signe même plus de papier. Bon, je vous propose de soumettre ce point à l'ordre enfin, au vote. Donc, qui est contre la création d'une servitude de passage dans la cour arrière du bâtiment? 4. Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. On passe au point suivant, fixation d'un tarif de vente du bois pour la parcelle 19.
Bonsoir. L'Office national des forêts planifie chaque année pour le compte de la commune, dans le cadre des aménagements forestiers, les actions à mener dans les forêts relevant du régime forestier à l'appui de documents opérationnels rédigés à l'issue de l'étude du milieu naturel. Ceci a été fait par l'ONF. Par délibération en date du 28 septembre 2016, le conseil municipal de Réal avait notifié la destination des produits issus du martelage en abandonnant la délivrance intégrale pour la parcelle 19, inscrite en état d'assiette 2015. Il avait été ainsi décidé d'opérer une délivrance partielle du bois marqué après façonnage pour une quantité de 400 mètres cubes, exploité dans les conditions prévues à l'article L214-11 du Code forestier, le reste du bois issu de cette coupe devait être destiné à la vente à l'unité de produits. La coupe de la parcelle 19 a été confiée à une entreprise de travaux forestiers, Biobois Énergie, en date du 4 novembre 2016 pour un montant de 6 400 euros hors taxe, soit 16 euros hors taxe la mètre cube, avec un façonnage en sphère de 2 mètres linéaires. Il convient de fixer le prix de vente pour la délivrance du bois façonné, qui est proposé au tarif de 30 euros par mètre cube, considérant que le prix d'achat par la commune est le prix moyen du marché pour le sphère de bois entre 50 et 70 euros. La recette attendue pour la commune s'élève à la somme de 4 320 euros. La mise en vente sera effectuée au cours du premier trimestre 2017. Les habitants désireux de bénéficier d'un lot de cette coupe devront s'inscrire en mairie avant le vendredi 28 février 2017 à 12h. Avant organisation d'un tirage au sort, le samedi 4 mars 2017 à 10h, en mairie. Une campagne de communication sera mise en œuvre par la municipalité avec notamment l'insertion d'une annonce dans la dépêche du monde.
Je vous propose de...
Oui.
Est-ce que vous avez des questions?
Juste une précision, c'est le bois sera façonné en longueur de 2 mètres, ceci pour compliquer le vol de ce bois qui sera difficile à transporter par des voleurs, sachant que c'est une opération qui se pratique de plus en plus malheureusement sur les terrains.
Est-ce que vous avez des questions? Je propose de procéder au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions diverses?
Je voudrais savoir si l'avocat de la commune est allé plaider la cause de l'EHPAD à la cour administrative de Bordeaux. L'audience avait lieu.
Non, il n'y est pas allé.
Il n'y est pas allé. D'accord. Vous n'avez aucune idée du résultat de la
décision? Il est défavorable pour l'OPH et pour la commune.
Comment?
Il est défavorable pour l'OPH et la commune.
Donc il est défavorable. Donc est-ce que vous avez anticipé ce que ça représente, ce que ça va faire?
Non, pour le moment, non, c'est une conclusion de rapporteur public.
Oui.
Il faut attendre le jugement maintenant.
Donc,
on n'a pas eu le jugement.
Donc si le jugement, voilà. Est-ce que vous avez anticipé le fait, parce que bon, en cours d'appel peut-être que... et d'ailleurs, dans les autres instances,
on doit avoir
99% de fois sur 100. Voilà, 99%, le juge suit les conclusions du rapporteur. Est-ce que vous avez imaginé ce que ça pouvait représenter?
Donc on attend le jugement, la confirmation, de toute façon, mais en effet, normalement, ça suit le rapport. On va rencontrer notre avocat, faire un point avec lui sur ce dossier. Sachant qu'on l'a reçu récemment, hein, donc on n'a pas eu encore de rendez-vous.
Il n'a pas eu, il n'est pas allé plaider, c'est ça? Il n'est pas allé plaider ce dossier pour la cour?
Tout à fait.
Donc ça veut dire que soit on démolit les pattes, soit on le rachète?
Grosso modo, oui.
Ah, ça va être chouette.
Ça va pas être le cas.
On a les moyens? Ouais.
Il est hors de question qu'on rachète, et il est hors de question qu'on démolisse, ça va de soi. Après la convention qui avait été signée, l'accord entre l'OPH et la mairie, moi j'avais manifesté mon désaccord, hein,
oui, oui.
À ce moment-là.
Oui, mais pas pour les moyens invoqués par le rapporteur.
Mais j'avais manifesté mon accord.
Oui, vous aviez manifesté sur la durée du prêt, parce que vous préfériez 55 euros de
bail à
fidélité. 55 ans de bail à fidélité.
Non, il n'y avait pas que ça.
On ne va pas refaire l'histoire de l'EHPAD, mais le moyen soulevé par le rapporteur, c'est qu'au départ de l'action, il n'y a pas eu de publicité. C'est bien ça?
Il n'y a pas que ce point-là.
Si, il y a ce point-là, et il y a l'obligation de résilier tous les contrats dans les 4 mois. Les personnes âgées qui sont dans l'EHPAD, qu'est-ce qu'on a fait?
Non, mais enfin, je pense qu'il ne faut pas extrapoler, qu'il est évident, et que je pense qu'on ne se bat suffisamment pour maintenir l'EHPAD, pour le fait qu'ils aient des conditions décentes d'accès. Pour le moment, ça se passe bien.
Non, mais c'est fini, là. Si le juge suit le rapporteur, c'est fini.
D'accord, très bien. On verra. On se mettra autour de la table et vous verrez, c'est une affiche.
Mais j'espère qu'on se mettra autour de la table, parce qu'on ne s'y vient jamais. Mais là, peut-être que ça vaudra la peine d'en parler.
Bon, écoutez, je pense qu'on peut lever... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Je vous ai envoyé un mail, auquel vous n'avez pas répondu, sur la tribune libre des élus d'opposition sur le site web de la mairie. J'aimerais savoir si c'est possible de l'avoir.
On a déjà répondu avec Tipalo, précédent conseiller municipal. Donc, on a déjà répondu à cette question. En soi, étant donné la nature actuelle du site, sachant qu'il n'y a aucune promotion de l'action municipale, de l'équipe municipale, il n'est pas nécessaire, au niveau de jurisprudence, de mettre une tribune libre là-dessus. Pour autant, il y a le texte de l'opposition posté, inscrit pardon, dans le bulletin municipal qui sont notés à chaque réponse de l'édition à l'intérieur de ce site.
Alors, M. Chantra, je vous propose de relire la loi numéro 2002
276, l'article 9, voilà, qui dit que dans les communes de plus de 3500 habitants,
et je vous invite aussi à lire la jurisprudence là-dessus et les différentes jurisprudences. Je réponds au fur et à mesure.
Non,
je vous invite aussi à répondre, à regarder donc les différentes jurisprudences qui
stipulent que
dans le cas où il n'y a, comme notre site en question, aucune démonstration, ni des visites de quartier faites par Mme le maire, ni des travaux qui sont engagés à l'initiative de la mairie dans un point ou un autre, ni autre chose qu'une simple vitrine.
Alors, la loi dit que dès que le site
ça web
refuse des informations générales sur la gestion communale, donc je pense qu'il y a assez d'informations générales sur la gestion communale.
Il n'y a pas d'informations sur la gestion communale.
Ben, dans si les associations, vous avez le dossier à l'eau qui met en ligne, vous avez le bulletin municipal. Je suis désolée, il y a les marchés publics, il y a des informations générales.
Je pense qu'on a un point de désaccord parce qu'on ne manifeste aucune action de la mairie sur le journal, sur le site.
Comme vous disiez, le bulletin municipal, il y en a dedans.
Mais vous, non, le bulletin municipal, vous avez une tribune.
Non, mais dans le bulletin municipal,
mais là, on parle du site.
Il est sur le site.
Il est comme tous les documents. On met tous les documents, on a une volonté de mettre tous les documents consultables sur le site. Non, mais je pense qu'on est sincèrement pas d'accord sur une interprétation.
D'ailleurs, le gouvernement va élargir ce point de vue, apparemment, aux communes de 1000 habitants à partir de 2020.
Avant même qu'on ait l'obligation qu'on soit passé à 3005, on vous a donné une tribune dans le journal municipal alors que ce n'était pas obligatoire. Pour nous. Donc à chaque fois,
vous l'avez donné quand même. Et maintenant, vous nous la refusez.
Mais non, vous
la
refusez.
Non, mais le site internet, il y avait deux choses. Il y avait deux articles. Il y a l'article 31 et l'article 34. C'est vous qui les avez soumis. Vous nous l'avez proposé. Tout le monde l'a voté. Et maintenant, vous le refusez.
Mais on remet en
retranscrit. Absolument pas. Il est mis en place. Vos éditos sont placés sur le site de la mairie. Ah, un lien qui amène effectivement.
Non, sur les non. Tu confonds, Thierry, tu confonds le journal municipal, c'est l'article 31, et la page de lien sur la page de la mairie.
Pour ce qui se passe, je suis entièrement d'accord.
Est-ce que vous avez d'autres questions?
Demandez à Maurice de laisser la tribune à ses opposants.
Il ne faut pas
demander aux autres d'appliquer ce qu'on ne s'applique pas.
Je vais y répondre de suite, M. Martin.
Je n'ai jamais été
élu. Je demande juste que la loi soit appliquée.
Je trouve, soyez fair play, je trouve que c'est déjà bien d'avoir une brochure qui paraît mensuellement, et vous avez en plus une possibilité de mettre vos articles, qui nous intéressent ou pas, vous avez la possibilité de le faire. Je trouve déjà au moins que vous pourriez faire grâce au moyen à la municipalité actuelle.
Mais c'est pas à vous de décider le nombre de supports qu'on peut avoir, c'est pas à vous de les décider. Les lois disent que tout support...
Je pense qu'on est en désaccord sur ce point, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre
nous. Vous savez très bien.
Mais je vous ai répondu et j'ai la même interprétation que M. Chantran.
J'aimerais bien que M. Jailly regarde la loi. Il a son ordi.
Là, il y a pas d'objection, je pense, mais. Mais bon, voilà, je pense qu'on a répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Moi, je veux répondre
à M. Martel. M. Martel, je vous ferai remarquer que j'avais une opposition féroce dans mon opposition dans mon conseil municipal, qui s'est toujours exprimé, et certainement beaucoup plus virulente, de manière plus virulente que je ne le fais aujourd'hui, beaucoup plus virulente, et qui est allée jusqu'au bout de tout là où elle devait aller, d'accord? Mais je n'avais pas une vraie opposition dans mon conseil municipal, parce que nous avions été élus tous ensemble. Donc, quand nous faisions le journal municipal, tout le monde participait. Voilà. Et le journal municipal sortait. Ça ne nous empêchait pas de... Maintenant, je vais vous dire... Vous bafouez tellement la loi, tous ensemble, parce que tous ensemble, pas vous seulement, tous ceux qui acceptent ce qui se passe, alors qu'on nous a fait signer un règlement intérieur, que l'article 31 et l'article 34 existent dans le
règlement intérieur,
que ce n'est pas nous qui l'avons demandé. Alors je pense, M. Martin, qu'avec votre manière de vous comporter, vous allez nous obliger à faire ce que nous ne voulons pas. Nous allons saisir le tribunal administratif pour faire valoir nos droits. Et vous viendrez défendre la cause de la commune.
Bon, est-ce que M. Salazar, M. Thomas, vous avez des questions? Je vous propose de la séance.
Je vous remercie.